Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux ailes.
Bonjour à toutes et tous. L'histoire dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'histoire d'un conteur, dirais-je. Vous savez, ces conteurs qui autrefois faisaient les belles veillées au coin du feu, au coin de l'âtre, quand il n'y avait ni télé, ni ordinateur, ni écran. On se retrouvait et il y avait toujours un conteur pour nous raconter de belles histoires. L'auteur dont nous allons parler aujourd'hui, et surtout de son livre, moi j'aime beaucoup parce qu'il raconte ses histoires avec des mots simples, sous la forme d'un conteur. C'est un monsieur qui, avec son accent, nous donne le soleil de son cher Cantal et de la ville où il vit, Clermont-Ferrand. Alors nous le retrouvons aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de le retrouver il y a quelques mois pour une très belle histoire qui s'appelait, et je vous le recommande, Le pain de paille, c'était aux éditions Calmann-Lévy. Aujourd'hui c'est Le cœur de mon père aux éditions Calmann-Lévy et j'ai eu le plaisir de retrouver monsieur Antonin Malroux. Vous voyez, Antonin à lui seul, c'est un joli prénom romantique et qui respire bon la campagne et le feu de bois. Bonjour Antonin Malroux.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour délivrez-vous ces deux ailes pour votre dernier ouvrage, Le cœur de mon père, aux éditions Calmann-Lévy. Alors, tout d'abord, pour les auditrices et auditeurs de ces deux ailes qui ne vous connaissent peut-être pas, eh bien, on va parler un petit peu d'Antonin Malroux. Qui est-il et que fait-il à part écrire hein?
À part écrire, que voulez-vous que je fasse? Je pense à écrire. Je sors, quand j'écris un bouquin, il est fini, j'en ai marre, j'ai dit c'est le dernier, et puis 15 jours après, ça recommence et ça me titille, et je ne pense qu'à ça, et on est au, je sais pas, 25e livre, enfin bon, ça ne s'arrête donc jamais.
Pour notre plus grand plaisir, en tout cas, voilà.
Ah oui, 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 oui.
Alors, le livre d'aujourd'hui, donc Le cœur de mon père. Ça se passe dans un petit village, à la ferme des Quatre Vents, avec la famille Montfernac. Il y a le papa François, la maman Madeleine, la fille Juliette, mais le fils Mathieu est parti pour des tensions et des distensions familiales qu'on ne révélera pas puisqu'on laissera le soin au lecteur de le découvrir. Nous sommes en 1914. C'est la veille de la Première Guerre mondiale et le père, contre toute attente, va être mobilisé. Alors, il y a un voisin qui remplace un peu le fils, hein, qui vient travailler avec eux et qui fait moult tâches pour eux. Comment est venu? Alors, vous précisez bien que les personnages, bien sûr, sont fictifs et que toute ressemblance serait fortuite et involontaire. Néanmoins, vos personnages sont toujours très vivants et cette famille de Montfernac l'est tout autant.
Et oui, il faut bien que je cache, que je dissimule quelques vérités sous des noms d'emprunt, mais on a l'impression que l'on invente toujours quand on écrit, ou on fait en sorte de le penser ainsi, et puis après, quand on rencontre nos lecteurs, eh bien on a souvent l'appréciation suivante. Ah, mais cette histoire, je connais les lieux, je connais les gens, je connais si, je connais... Alors, on se cache pour rien du tout.
Oui. Alors ce Cantal que vous aimez tant, je le disais, c'était en 1914. Pourquoi, expliquez-nous pourquoi la mobilisation du père est inattendue?
Ben elle est inattendue parce qu'il est il est assez âgé, il a 39 ans, si je me rappelle bien.
Oui.
Et c'est vrai que on n'attendait pas. Mais bon, c'est le moment et lui, il ne rechigne pas, il se prépare. Et il se dit au service de la France, au service de ces libertés dont on veut nous séparer.
Oui.
Et il part. Bon, c'est pas qu'il est gay, mais il part. Il part faire son devoir.
Oui. Alors Violette, sa fille, voit partir ce père, qu'elle aime par-dessus tout, ça lui arrache le cœur. Et elle se dit que son père a quelque part le cœur brisé à cause du malentendu avec son fils Mathieu. Et elle a peur que ça change beaucoup de choses pour lui. Expliquez-nous cela.
Oui, il y a eu une petite histoire de famille. Il s'est laissé embobiner par des on-dit, des rumeurs. Puis il avait son petit caractère et ça lui avait pas plu, donc il a un peu quitté la maison et il travaille chez d'autres gens et il ne revient pas à la maison. Bon, son père, c'est quand même un drame pour lui, mais bon, c'est comme ça. Et quand son père part, il va prendre le train dans la gare de la Roquebrune, se passe l'histoire, oui. Eh bien son père jette un dernier regard autour de ces gens, parce qu'il y avait quand même pas mal de départs et de familles qui accompagnaient. Eh bien, il ne voit pas son fils. Ça lui déchire le cœur, mais c'est comme ça. Par contre, à ce moment-là, il se passe quelque chose qui va guider un peu, qui va être le conducteur de ce livre. François s'approche de sa fille et lui remet sa montre, oui. Sa montre goussée. Et il lui dit, voilà, je te la confie et j'espère la retrouver quand je reviendrai en bon état. Alors il faut la remonter tous les 15 jours, oui. Quelque chose comme ça.
Mais ça va devenir, je dirais, cette montre va devenir l'un des personnages principaux.
Et oui.
De ce livre.
Oui, parce que, oui, on va voir un peu plus loin pourquoi.
Oui. Oui, on ne peut pas tout dire, bien évidemment. Alors, Violette, quelque part... elle culpabilise aussi un peu de la brouille entre son père et son frère.
Oui, mais elle culpabilise pas trop, parce que ce n'est pas elle qui est en cause.
Oui.
Hein. Ce sont des rumeurs, c'est le frangin qui a mal accepté d'eux, donc elle en souffre, ça c'est sûr, parce qu'il n'y avait pas de raison que cela se présente ainsi, mais c'est comme ça.
Alors, votre livre aussi, c'est, je dirais, un bel hommage de l'amour d'un père et d'une fille, de ce rapport dans une époque certes très troublée, bien évidemment, où bien des familles vont se retrouver dans le malheur et on voit ce père chéri partir. Mais c'est aussi effectivement l'histoire d'un père et d'une fille. Vous êtes toujours très attentif, hein, c'est quelque chose qui vous touche beaucoup, ce rapport à l'autre, les rapports entre les gens. Et vous avez fort bien décrit le rapport entre cette père et cette fille. Comment avez-vous construit vos personnages ?
Eh bien, on me reproche souvent de parler et de me consacrer un peu à la mise en valeur des femmes dans mes bouquins. Oui, c'est vrai, parce que je veux les monter à leur place, parce que je pense que, et surtout dans les campagnes où elles ont tant souffert, les femmes, parce qu'il faut voir un petit peu comment ça se passait. Bon, maintenant, c'est plus tout à fait ça. Mais encore, vous savez, pour moi, les femmes sont... Une femme, c'est la maîtresse du monde. C'est pas les hommes. et oui, c'est... Enfin, je le pense comme ça. Et cette histoire d'attachement entre Violette et son père... Parce que il est parti, parce que tous les jours elle parle, elle écoute battre le cœur de son père,
oui.
Au travers du tic-tac de la montre.
De la montre.
Et c'est quand même fort.
Oui.
Et elle lui parle, elle a besoin de ce contact. Et le jour où, parce que quand même un jour il va se passer quelque chose, et on peut le dire sans connaître la fin du livre, ils vont apprendre le décès du père.
Oui.
Et là vont se présenter des arrangements de famille, parce que la mère et la fille ne pourront pas tenir seules la ferme. Et ça va devenir très compliqué.
Oui.
Mais bon, on va pas peut-être
non,
en
on va
dire
pas tout.
Plus,
mais
entre la mère qui va tous les jours, qui va perdre un peu son âme et sa mémoire. Souvent, elle s'échappe de la maison et elle va à ce croisement au bout du chemin où il y a une croix manchotte. Hein, une croix dont un bras a été cassé. C'est pour ça qu'on appelle le lieu ainsi.
Oui.
Elle attend toujours. Bon, sa fille est obligée d'organiser d'organiser la ferme et finir par s'arranger et tenter de s'arranger avec son frère.
Oui.
Mais son frère lui avait envoyé, avant tous ces drames, lorsqu'il était fâché, un courrier en lui disant « Ma part de la ferme, je te la donne. Je ne la prendrai pas, elle sera pour toi. » Bon, mais ça n'avait pas beaucoup d'importance à l'époque. Mais quand ils sont dans la situation actuelle, avec les événements qui se préparent,
oui.
Et là, tout va être remis à plat et ce sera bien, bien difficile à tout ce petit monde pour s'arranger. Mmh. Et grâce, je pense, à l'intelligence et à la force de caractère de Violette, elle va assumer de s'arranger avec son frère et de nouveau lui laisser sa part, parce que pendant que son père était à Verdun, il avait envoyé un courrier chez son notaire. Peut-être pressentait-il les malheurs qui allaient arriver. Et il indique bien, vous voyez, c'est quand même très étrange, mais dans les campagnes, c'était comme ça, il rappelle au notaire que, même si son fils s'était éloigné, c'est quand même lui qui doit reprendre la ferme et bénéficier du droit d'aînesse, qu'on appelait. Et là vont s'ouvrir d'autres drames,
oui.
avec un paysage nouveau qui va s'installer.
Et oui.
Ça va être pas facile à vivre, mais ils vont prendre des décisions, les uns et les autres, qui vont amener à des conséquences inimaginables. Mmh. Mais la force de Violette, c'est un caractère bien trempé. Elle finira par faire quelque chose en souvenir de son père, comme on dit dans la fin de la quatrième de couverture.
Mm.
Elle ira jusqu'au plus singulier des sacrifices.
Oui.
Et voilà.
Tout à fait.
Et oui, et ça, c'est... Et vous savez, et encore dans ce cimetière de La Roquebrune, puisque vous n'avez pas cité le cas, il se passe toujours des choses étranges, très étranges,
oui.
qui concernent cette histoire.
Mm.
Mais je n'en dirai pas plus pour l'instant.
D'accord, bien. Alors, vous racontez cette histoire, l'histoire de cette famille, on disait dans des temps troublés, hein, puisque c'est en 1914, au moment de la mobilisation. Ce qui est très intéressant aussi, c'est la description de l'époque, la façon dont vivaient les gens. Pour ceux qui n'ont pas connu, qui sont nés bien après, c'est aussi une page d'histoire que vous nous racontez. Et ça, c'est très intéressant aussi. La façon dont vivaient les gens en 14 dans le Cantal, qui explique aussi un peu la vie des gens dans les campagnes, à ce moment-là en tout cas. Parce qu'on sait que définitivement, les choses vont changer. Il y a eu un avant et un après 14-18, bien évidemment.
Ah oui. Ah oui, il va se passer, les choses vont changer, le comportement des gens, les habitudes, on ne va plus réagir comme avant, on ne va plus vivre comme avant, ça annonce un grand bouleversement, oui. Et quand on écrit ou quand on lit des livres qui racontent un peu ces histoires, ça nous rappelle ces changements immenses. Ça a procuré en France un changement total de comportement, de mode de vie, etc., etc.
Tout à fait, oui. Eh bien, écoutez, j'espère que ce qui ne va pas changer, c'est cette pause musicale qui va sans doute faire plaisir à chacune et à chacun. Et nous nous retrouvons tout de suite après.
Pour toi, noble patrie, il t'offrira l'hymne de ton amour. Est-il ailleurs de plus vertes campagnes et des bosquets aussi délicieux?
Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Antonin Malroux pour Le cœur de mon père aux éditions Calman Lévy. Alors, on parlait donc justement de cette période 14-18 qui a bouleversé le monde et notamment la France et les campagnes. Une chose aussi, effectivement, ont lieu ce bouleversement, c'est que les hommes sont partis. Et les femmes doivent faire face à tout, aux fermes, nourrir les enfants, travailler les champs. Elles vont prendre indubitablement la place de l'homme, puisque les hommes, pour beaucoup, sont mobilisés. Et oui. Certains ne reviendront jamais, hélas.
Oui, et c'est à ce moment-là que les femmes prennent un peu le pouvoir, mais pas le pouvoir, mais oui. celui de se comporter différemment. De prendre soin d'elles, de même dans leur façon de s'habiller, mm-hmm. de s'habiller
oui.
avec
la mode
couleurs,
a changé,
habiller,
la
les
mode
cheveux
a changé.
Plus courtes, les cheveux bien coiffés, de se prendre en, comment dirais-je, de se réaliser parce que elles ont trop souffert, et elles sont bien obligées aussi, parce qu'il y a
oui.
tant d'hommes qui ne sont jamais revenus.
Et oui.
Peut-être tout ça fait que le monde, ça a aidé le monde à changer, et le monde des femmes en particulier, et il était bien temps.
Oui, mais surtout dans les campagnes où malgré tout... La vie difficile a perduré, surtout quand on disait les hommes ne sont pas revenus, il a fallu continuer. Elles ont appris des métiers qu'elles ne faisaient pas, c'est-à-dire au-delà de la maison des enfants, il a fallu apprendre des métiers d'hommes et manipuler aussi les outils que manipulaient les hommes. Il a fallu tout apprendre ou réorganiser de toute façon. On s'aperçoit aussi que de nouveaux métiers se sont créés aussi.
Oui, 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 mais ça a été un grand bouleversement, une grande ouverture, et il a fallu le payer bien cher, mais sans ces situations, peut-être nos campagnes n'auraient pas... On dirait qu'il y a une autre guerre après,
oui,
hein, mais celle-ci
30 ans après, oui.
elle a été source d'un très, 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 très grand changement.
Oui. Alors, avec Violette, moi, je dirais que avec Violette et grâce à Violette, hein, ce personnage fort attachant, c'est un hymne à la femme, de son courage, de son indépendance. Je trouve aussi que c'est une jeune femme terriblement moderne.
Eh oui. Par la force des
choses, événements,
deux,
bien sûr.
Deux, elle a pris son destin à main différemment. Mmh. Elle s'est mise à travailler chez une couturière qui lui a après lui laissera la boutique. Mais c'était une personne pleine d'envie de sortir de là-bas et de prouver peut-être que elle faisait partie de ce grand mouvement d'innovation et a prouvé que tout ça. C'était bien réel et ce n'est pas des inventions d'écrivains.
Alors, ce qui est aussi bien décrit, que l'on ressent, c'est que la montre de son père qu'il lui a donnée, qui est oui. le cœur de son père, hein, finalement, comme
oui.
le titre
oui,
de
oui.
votre livre, mais va lui donner aussi des ressources incroyables, une force incroyable. C'est-à-dire qu'au travers de cette montre, son père lui a transmis une vraie force, de vraies pensées, en lui disant « il faut continuer malgré tout ».
Oui, et cette montre lui donne la force aussi par son fameux tic-tac,
oui,
qu'elle écoute pour reprendre du courage. Pour... C'est un lien vivant. Le bruit, le tic-tac de cette montre, c'est le lien vivant avec son père. Ça peut paraître comme ça un peu, effet de roman, mais non, c'est que une montre qui monte toujours, qui marche toujours,
oui,
et qui c'est le cœur de son père, et ce cœur, il va battre tellement longtemps.
C'est le battement du cœur qui va régler et régir sa vie comme un tempo, finalement, comme quelque chose qui va réguler sa vie au fur et à mesure du temps.
Oui, et un objet que lui avait confié son père avant de partir.
Avant de partir.
C'est très fort. Et vous savez, les gens de la campagne, à cette époque, ils avaient tous, la plupart, les hommes, une montre goussée.
Oui.
Et ça, c'est... Elles ont toujours de la valeur pour ceux qui en ont. Et moi, j'en ai une que je mets dans mon gilet quand je dédicace. J'ai un peu la montre de François. C'est original, mais c'est des images qui me vont bien parce que je suis de cette terre.
Oui, tout à fait. Vous êtes de cette terre, de ce beau Cantal.
Oui.
Aujourd'hui, quand vous avez, personnifié, humanisé Violette, Madeleine, Françoise et bien évidemment Mathieu, parce qu'on va reparler de lui dans le livre, bien évidemment. Vous le précisez, hein, ce sont des personnages fictifs et toute ressemblance serait fortuite. Mais je pense que chacun ou chacune, au travers de son histoire, de sa famille, peut se retrouver. Dire, bah tiens, j'avais une grand-mère, un arrière-grand-père. Si on regarde un petit peu l'histoire de cette guerre de 14-18, où chaque famille a forcément eu des ancêtres qui ont vécu à ce moment-là et qui peuvent, vous savez, comme les coureurs qui passent le relais, dirais-je.
Oui. Eh bien, figurez-vous que mes deux grands-pères ont participé à la bataille de Verdun.
Mm-hmm.
C'est étrange, mais c'est comme ça. Et tous les deux en sont revenus. Et il n'était pas possible de leur faire raconter.
Oui.
C'était pas possible. Ou alors, mon grand-père maternel, qui était un grand conteur, et c'est peut-être de lui que je tiens un peu, histoire de raconter, m'en a dit quelques mots, mais que dans des histoires de plaisanteries qu'il faisait avec des copains, mais jamais les graves moments, les batailles et tout, parce que Verdun, c'était Verdun, et il y était, et on peut pas... Alors, je sais que ça m'a fait aussi plaisir de parler de ces gens qui étaient comme ça appelés et qui partaient et ne sachant pas du tout s'ils allaient revenir, l'espérant,
oui,
mais après l'incertitude, les événements. Alors, c'est en écrivant ce livre, un regard vers mes ancêtres.
Oui, vers ces deux grands-pères.
Les deux étaient à Verdun. Oui.
Oui.
Il y a une trace, mais vous avez dit tout à l'heure le passage, non, le porteur, le passeur.
Le passeur, le relais.
Eh bien, relais. Ce mot me convient tout à fait. On m'a, dans certaines interviews, même pas mal, on me dit que je suis un passeur.
Oui.
Et vous savez, c'est quelque chose, c'est un adjectif terrible et révélateur de ce que je suis, mais ça me va bien, ça me va très bien. Et ne serais-je qu'un passeur, vous imaginez le bonheur que je peux en retirer.
Oui, mais ça vous donne aussi une grande responsabilité.
Oui, peut-être, oui, aussi. Mais vous savez, je dans tous mes romans, je mets toujours à l'honneur les gens simples de mes campagnes.
Oui, mais c'est très bien.
Oui, toujours.
C'est très bien, ça fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup de bien.
Ben oui, je sais faire que ça et j'essaye de le faire le mieux possible.
Alors, je suppose qu'après Le cœur de mon père avec cette famille Montfernac, vous avez encore un livre dans votre tiroir. Ce ne sera pas le dernier.
Oh, ce n'est pas le dernier. Ah. Non, non, non. Ah. Il y en a un qui va être publié au printemps.
Oui.
Et je travaille sur le suivant encore.
Bon, toujours dans le Cantal, bien sûr, dans ce cher Cantal.
Ah, bien entendu. L'histoire se passera toujours là-bas. Oui,
bien
oui,
sûr.
Oui, oui. Je suis enraciné.
Oui.
Ah oui, je suis.
Cet attachement à cette famille, vous savez, quand le père disparaît, je me suis dit, mais Antonin Malroux a dû lui faire du chagrin que le père disparaisse. Pourtant, c'est vous qui écriviez. Mais je suis sûre qu'au travers des lignes, je me suis dit, bon, bah, c'est l'histoire qu'il a créée, qu'il a construite. Mais il a dû avoir du chagrin que François Montfernac disparaisse.
Il y a peut-être dans cette histoire quelques secrets que je ne peux pas révéler.
Oui.
Mais il y a toujours quelque chose qui tire dans la pensée d'un auteur. Mm-hmm. Il y a toujours quelque chose qui vous agrippe.
Oui.
Et on a beau se détacher, enfin tenter de se détacher dans son écriture de ce que l'on est ou quoi que ce soit, mais il y a toujours un lien.
Bien
je
sûr.
Ne peux pas les dire, mais il y a toujours des liens.
Mm-hmm.
Je ne m'en sortirai jamais.
Mais vous l'aviez prouvé, moi ça m'avait profondément marqué avec le pain de paille, où c'était quand même une histoire incroyable aussi, cette histoire du pain de paille.
C'était quand même... Vous savez que ce pain de paille a été porté, ce pain de paille, j'ai rencontré un boulanger, il a une école de boulangerie en Aurillac, nationale et internationale même, puisqu'il a emporté, ce monsieur Christian Fabret, a
m'aviez
emporté
dit...
un carton
en Chine,
de mes livres.
En Chine, oui.
Où il a des boulangeries, une école, enfin, c'est tout.
Oui, vous m'aviez dit
donc,
ça.
Donc, mon bouquin est à Shanghai et à Pékin, aux bibliothèques de l'Alliance française.
Mm-hmm.
Et oui, c'est étrange comme les choses peuvent aller loin, une histoire de pain de paille.
Et oui, ça c'était une belle histoire aussi. Alors pour ceux qui n'ont pas lu le livre, rappelez-nous rapidement ce pain de paille.
Eh bien, ce pain de paille, on peut dire que c'est l'histoire d'une pauvre et d'un comte, d'un riche, une jeune fille qui va se trouver par des circonstances bizarres au service d'un noble qui vient en vacances dans son château et qui a besoin de personnel pour différentes raisons.
Mmh.
Et on lui demande, elle est à côté, donc oui, elle veut bien donner un coup de main et puis elle va s'intégrer un peu là-dedans. Et puis aussi, ça se passe aussi à ce moment-là, c'est toujours vers la guerre de 14.
Oui.
Et puis, c'est une famille noble, très riche. Il y a les parents, il y a les enfants, et puis bon. Et puis le dernier, qui est un jeune homme de 19 ans, qui est gentil, quoi. Il n'a pas de...
Il n'y a rien de particulier, voilà.
Et à un moment, on les prévient qu'à Paris, leur grand hôtel, etc., ont été bombardés. Bon, ils s'y rendent. Bon, tout le monde va disparaître. Parce que ça continue. Seul restera ce jeune qui, n'ayant plus rien à Paris, sauf quelques argent en banque, va décider de rester dans ce château tout seul dans le Cantal. Et il demandera à cette jeune fille, parce qu'eux, ils avaient du personnel qui venait de Paris, qui les accompagnait. Mais en fin de vacances, tout le monde rentrait et le château se trouvait vide. Mais là, lui, il n'a plus de lien. Il va rester là et il va demander à cette jeune fille si elle veut bien continuer à travailler un peu pour lui. Mais c'est que cette jeune fille a du caractère. Et parfois, ça, le ton monte. Et elle lui dira même un jour, vous n'avez jamais travaillé,
Mais
vous n'avez, vous avez, vous avez une fortune, vous n'avez que ça à faire, la dépenser, vos parents aussi, vos grands-parents, enfin. Et moi, je veux bien vous aider un peu, mais je ne suis pas du tout dans votre style de vie. Oui. Vous vous rendez pas compte, etc. Je me mets vraiment en colère. Elle lui dit, vous savez, moi, dans mes arrière-arrière-grands-parents ont dû consommer du pain de paille. C'était fin du Moyen-Âge, vers la Révolution, par exemple. Ils fabriquaient du pain avec le peu de farine que leur laissait le Seigneur, et il fallait y ajouter de l'herbe, du foin, etc.
Voilà, d'où l'expression,
pour avoir un peu plus de pain.
D'où l'expression, le pain de paille, voilà.
Et alors lui, il dit, mais il est choqué, mais bon, il me dit, mais peut-être que je voudrais bien goûter de ce pain. Et alors elle part à la recherche
du pain de paille, voilà. Et on va laisser les auditrices et auditeurs, prendre connaissance également de ce livre, le pain de paille, qui avait été édité aux éditions Calmann-Lévy. Eh bien, le livre d'aujourd'hui, c'était le cœur de mon père, aux éditions Calmann-Lévy, avec Antonin Malroux. Je vous remercie infiniment. C'était un plaisir de nouveau de vous recevoir. Et puis, je vous dis à une prochaine fois pour un nouvel ouvrage dans le Cantal.
Ce sera avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Antonin Malroux. Au revoir.
Au revoir. Merci beaucoup.
Merci.